Koh-Lanta les Quatre Terres, épisode 11. Ce sont Laurent et Alix qui ont été éliminés à la suite de cet épisode. Et on va tout de suite le débriefer avec vous. Bonjour à tous, c'est Damien pour ce 11e épisode de la 3e saison d'Autour du Feu. Donc je suis ravi de vous retrouver. Le chat est là et encore une fois, un beau parterre d'intervenants. Donc on va tout de suite commencer par les présenter. Donc il gère notre Instagram maintenant. Il gère notre Instagram, il nous a rejoint. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est Arnaud alias SLZ. Salut Arnaud.
Salut Damien, salut tout le monde. Ça fait plaisir d'être là une nouvelle fois. Surtout aujourd'hui en plus.
Est-ce que tu as aimé l'épisode ?
Je l'ai trouvé un petit peu long à se mettre en place. J'ai beaucoup aimé les épreuves, par contre. Et ça, on le dit assez régulièrement, c'est un gros point fort cette année. Il y a beaucoup de nouvelles épreuves et il y a beaucoup d'épreuves de logique et d'épreuves un petit peu cérébrales. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, j'ai aimé le retournement un petit peu de situation, parce que voilà, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un bisort, et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc c'est assez plaisant quand il y a des retournements comme ça.
Alors ensuite, je vais présenter notre intervenant à la voix de velours, c'est Gino. Salut Gino.
Salut Damien, salut à tous. Donc je tiens à dire à tout le monde que cette semaine, je ne ferai pas de grande envolée de 10 minutes, puisque je suis venu au dernier moment. Puisque notre ami Freeze a eu un empêchement de dernière minute et on le salue tous.
Et avec nous, non pas un, mais deux anciens candidats. Donc le premier candidat, c'est un ancien de la Guerre des Chefs, donc la première saison que nous avions couverte ici à Autour du Feu. On le voit souvent sur Twitter, il aime bien réagir à pas mal de choses et on est très très content aussi de l'accueillir ici parce qu'il a été lui aussi éliminé à l'épreuve des binômes. C'est le Basque Brice. Salut Brice.
Salut, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Alors du coup, comment ça va toi du coup en ce moment, comment va ta vie, tout ça?
Moi écoute, ça va très bien, donc je suis dans mon petit pays basque confiné, voilà, j'ai l'océan à 200 mètres, donc bon, je suis moins à plaindre que...
Il y a pire confinement.
Voilà, je pense que je suis moins à plaindre que certains parisiens ou des étudiants qui sont vraiment cloîtrés chez eux, donc tout va bien, et j'attends avec impatience de débriefer l'épisode de vendredi avec vous, bien évidemment.
Est-ce que tu as apprécié, toi, cet épisode ?
Alors moi, pour être totalement transparent avec vous, j'ai trouvé très très long. Franchement, j'ai trouvé ça très long, alors que d'habitude, durant les saisons précédentes, les épisodes avec les binômes, c'est ce qu'on attend un petit peu, parce que c'est là où il y a des retournements de situation, où il y a un peu d'action, je trouve. Et là, j'ai trouvé que c'était assez longué. Ça manquait un peu de peps, quoi, j'ai trouvé, cet épisode. Donc un peu déçu. Un peu déçu.
Ouais, je crois que c'est l'air d'être un petit peu unanime pour l'instant. Pour ça, je suis d'accord avec vous tous. Hein. C'est vrai que c'était un épisode qui était assez longué, avec malgré un petit retournement sympa. Et enfin, il faut qu'on accueille notre dernière invitée. On est vraiment heureux de la voir. En tout cas, quand on a dit qu'elle serait invitée sur le podcast, genre tout le serveur ADF s'est un petit peu enflammé parce qu'elle est très, très, très populaire. C'est Julie de l'île au trésor et du combat des héros qui est avec nous. Salut!
Oui, bonjour. Oh, décidément. Je suis trop loin à Perpignan pour capter comme il faut, apparemment. Bonjour à tous.
Du coup, on est ravis de te recevoir aujourd'hui, Julie. On est content que tu aies accepté notre invitation. Alors, depuis, donc, du coup, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était au combat des héros où malheureusement, donc, tu t'étais fait éliminer en premier. Tu avais gagné quelques duels, notamment tu avais gagné un duel face à Chantal. Donc du coup, je vais demander maintenant qu'est-ce que tu deviens, comment va ta vie, comment tu vas ?
Ah. Eh bien, écoutez, je profite de ce confinement pour m'offrir une formation à distance dans l'esthétique, le bien-être, parce que je veux devenir spa praticienne, donc masseuse, voilà, en thalasso notamment. Et je profite de ça pour étudier à la maison et je pars bientôt en Bourgogne faire un...
Oh, chez moi. Eh ben, tu es le bienvenu, Julie, en Bourgogne.
Donc, en pleine reconversion et nouvelle vie, quoi, voilà. Changement de vie total et complet, puisque je suis divorcée, donc voilà. Un nouveau départ s'offre à moi.
Écoute, on te souhaite plein de bonheur possible donc, pour ta future carrière, pour ta nouvelle vie. Et du coup, je voulais te demander la même chose que tous les autres. Est-ce que tu as apprécié cet épisode ?
Est-ce que j'ai apprécié cet épisode ? D'accord. Alors, je répète parce que ça coupe de temps en temps. Le dernier épisode, ben oui, en fait, moi j'aime bien découvrir les nouveaux aventuriers, ce qu'ils et ce qu'ils ressentent en fait. Voilà, et ça m'a fait un petit peu penser à au binôme que j'avais eu en 2016 avec Freddy. Freddy qui avait fait les poteaux dans la session de l'île au trésor. Et c'était assez rigolo d'ailleurs, ce moment-là, parce que j'avais les yeux bandés et il me guidait sur un parcours, un peu comme un parcours du combattant. Et il m'avait dit, bah, écoute Julie, on est les derniers, mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout, parce que c'est ta devise, on va aller jusqu'au bout, on va se battre. Voilà, donc du coup, j'ai bien aimé ce dernier épisode, parce que ça m'a fait penser à... Voilà. À ça.
Justement, là, tu m'offres une transition parfaite pour la première question que je voulais vous poser à tous les deux, puisque bon, Brice, comme je disais, tu as été éliminé au binôme lors de la guerre des chefs. C'est que les binômes, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est que qu'est-ce que ça change, par exemple, au niveau stratégique, au niveau émotionnel aussi. Enfin, est-ce que le choix du binôme, par exemple, Brice, toi, c'était avec Sophie. Comment dire, qu'est-ce que ça change concrètement au niveau émotionnel, au niveau stratégique? Comment vous l'avez ressenti, vous, à cette époque du jeu? On va commencer par Brice.
Alors, l'épreuve des binômes, en fait, je pense que ça peut changer complètement ton aventure. Puisque, tu tombes avec un binôme au hasard, du hasard. Donc, tu peux très bien tomber avec une personne qui ne va pas te mettre en danger parce qu'elle est bien intégrée dans le groupe, ou alors, dans le meilleur des cas, elle dispose d'un collier d'immunité. Ça, tu le sais pas forcément parce que c'est pas obligatoire qu'elle te confie ça, mais je trouve que ça change complètement ton aventure parce que moi, pour le coup, je vais parler de ma saison. Moi, quand je tombe avec Sophie, je suis plutôt rassuré parce que elle fait pas trop de vagues. J'ai pas l'impression qu'elle soit en danger. Et puis, en plus de ça, c'est une personne avec qui, vers qui j'étais pas allé plus que ça depuis la réunification. Donc, ça m'a appris aussi à connaître une nouvelle personne. Et je trouve que ça, c'est super intéressant, quoi. Bon, après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On en débattra peut-être après, mais c'est plus de ma faute que de la sienne. Mais voilà, je trouve que c'est vachement bien que ça arrive à ce stade de l'aventure, parce que c'est vraiment... moi, c'était le 25e jour, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, tu commences à aller vraiment loin dans l'aventure, donc tu commences à te poser plein de questions. Et voilà, je trouve que c'est... C'est 3 jours super intéressants à passer sur l'île avec une personne. Quoi.
Du coup, je vais poser la même question à Julie, mais si tu nous as un petit peu parlé. Toi, je vais parler les binômes, par exemple, ton jeu, qu'est-ce que ça changeait concrètement, le fait d'être avec quelqu'un comme ça, d'être en binôme avec quelqu'un, comment tu l'as ressenti, toi, à ce moment-là?
Comme le disait Brice, en fait, il est tombé sur quelqu'un. C'est ça, quand on tombe sur quelqu'un de plutôt discret, c'est très bien, parce que moi aussi, Freddy, en fait, il ne faisait pas de vagues. En plus, il est très, très grand, très fort. Donc, j'ai eu de la chance de tomber avec lui et ça m'allait très bien. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas été visé pour être éliminé. Donc, non, ça va. J'ai gardé un très bon souvenir là-dessus, en fait.
Très bien. Pareil, vous, SLZ du Gino, je vous posais la question. Vous, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du twist des binômes en tant que tel? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça ajoute un petit piment à l'émission? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Gino.
Alors, le twist des binômes, je vais être honnête, c'est un twist sur lequel j'ai beaucoup changé d'avis au fil du temps. C'est-à-dire que, je vais être honnête, au début, je n'aimais pas ça du tout parce qu'il y a une trop grosse part d'aléas. Parce que voilà, c'est qu'on peut se retrouver avec son aventure complètement niquée parce qu'on n'a pas eu le bon partenaire. Et aussi parce que, bon, je sais que je vais encore donner l'impression de dire du mal de la production, mais disons que sur les premières fois où on a eu les binômes, il y a quelques fois où on a eu des colliers qui sont apparus comme par magie pour l'équipe minoritaire. Et disons que ce twist-là me donnait l'impression d'être trop artificiellement monté pour essayer de donner une opportunité à l'équipe minoritaire de s'en sortir. Ceci étant dit, au fil du temps, j'ai fini par changer d'avis parce que modifier un petit peu les paramètres de la stratégie, ça pousse les gens à aller voir un peu plus loin que le plan de base. Et disons, ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est parce que on sait que dans les autres versions, les versions étrangères, on a souvent des candidats qui aiment bien vaciller d'un camp à l'autre pour optimiser leurs chances, alors qu'à Koh-Lanta, comme on finit sur une finale à 5, on est incité à avoir un bloc solide. Donc là, avoir des binômes qui peuvent transcender les clans habituels, c'est quelque chose de très positif à la réflexion. Et aussi, bon, on a vu aussi au fil du temps que la prod ne s'en est pas tout le temps servie à mauvais escient. C'est juste que l'exemple de Koh-Lanta Malaisie m'avait un petit peu saoulé parce que voilà, j'avais vraiment l'impression que c'était trop gros. Mais sinon, au fil du temps, j'ai vraiment appris à apprécier cette altération du format. Et je pense vraiment que ça donne un changement de rythme qui est très très appréciable dans Koh-Lanta. Et en plus, c'est un moyen beaucoup plus sympa d'éliminer deux personnes que de faire une épreuve éliminatoire qui, pour le coup, me gêne beaucoup plus.
Enfin, Arnaud ?
Bah, c'est pareil, je suis plutôt fan de ce twist, parce que comme ça l'a été dit beaucoup, ça permet d'avoir une dimension stratégique supplémentaire, et on l'a vu encore lors de cet épisode, où un Dorian, par exemple, ça a été compliqué pour lui de devoir voter parce qu'il avait un allié dans chaque binôme, ou une affinité dans chaque binôme. Donc c'est voilà cette dimension stratégique là qui permet d'avoir toujours un petit peu une surprise, un départ surprise, et on le voit régulièrement, hein, comme on l'a dit, Brice dans sa saison, au départ il semblait pas forcément en danger, et le fait que le binôme constitué par Maud et Cyril, qui était le binôme le plus en danger, ait eu l'immunité, ça a tout changé dans la physionomie stratégique, ou même quand il y a eu Alban et Yacine, voilà, ça a permis de cibler Yacine sans le nommer, quoi. Il y a ça aussi. Les binômes, ça permet de cibler quelqu'un sans trop le cibler. On vise son partenaire, et comme ça, on dit, voilà, on a éliminé le partenaire, et il a entraîné le binôme avec lui, quoi. Donc c'est plutôt intéressant.
Comme précédemment, les éliminations de Yacine lors du combat des héros, et là pour cette saison, bah, du coup, viser Laurent pour éliminer Alex.
Voilà, ouais, c'est ça.
Enfin, ça, tu vois, c'est ce que Laurent a dit, si je peux me permettre de rebondir là-dessus.
Oh, permets-toi. Hein.
Tu dis, oui, ils ont voté Laurent pour en fait, parce qu'ils voulaient voter Alex. D'ailleurs, même Laurent le dit à la fin en disant que les votes étaient plutôt orientés vers Alex. C'est ce qu'il dit. Et d'ailleurs, je trouvais ça un peu déplacé de sa part, pour être honnête, de dire ça, mais bon. Mais en fait, je pense que Laurent a gassé aussi pas mal sur le camp, hein, les filles. Et donc, si tu veux, ils ont fait, ouais, ils ont fait coup double, quoi, parce que je pense pas qu'ils voulaient davantage sortir Alix que Laurent. Hein. Je suis pas forcément certain de ça. Parce que j'avais l'impression que Laurent commençait à beaucoup agacer certains aventuriers sur le camp, tu vois. Enfin, c'est que mon avis, hein, mais... Mais bon, Alix, c'est forcément, oui, c'est sûr qu'elle faisait peur aussi, donc ça leur permettait de sortir une aventurière qui était plutôt bonne en épreuve et un aventurier qui était peut-être un peu moins, qui commençait peut-être à saouler certains.
Disons que Alix était déjà un petit peu ciblée, donc le fait que Laurent soit avec Alix, ça a sûrement facilité la chose. Je pense que si Laurent est avec une Alexandra, par exemple, qui n'est pas forcément en danger ou avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait été moins facile d'éliminer Laurent. Mais là, le fait que Alix était déjà un petit peu ciblé, ça a été un petit peu l'occasion qui faisait le larron, comme on dit.
Ouais, c'est vrai.
Alors du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite au début de cet épisode, puisque l'épisode s'est ouvert sur la fin du conseil précédent, donc qui a vu l'élimination de jeudi, et un petit règlement de compte entre Lola et Brice. Donc Lola qui dit que Brice est un traître et tout, donc qui a quand même des mots assez durs, mais qui le lendemain, intelligemment, va s'excuser auprès de lui. Et c'est ça que moi aussi que je voulais vous demander, c'est Lola, c'est que, on l'a dit au fur et à mesure des précédents épisodes, mais c'est quand même une candidate qui a l'air comme ça très enjouée, très fraîche, enfin voilà, très... pas naïve, mais voilà, c'est que comme ça de très spontané, et au final elle fait ce que nous on appelle du jury management, c'est-à-dire en gros de apaiser les tensions avec les candidats si jamais ils sont éliminés pour qu'ils s'en souviennent. Est-ce que vous cette stratégie de Lola vous paraît efficace? Est-ce que vous appréciez pour l'instant sur cet épisode-là son jeu justement? Est-ce que vous appréciez sa manière un petit peu de gérer un peu les égos dans cette équipe, Gino?
Alors, je dirais que pour le moment, je vois sur le chat dire ça, mais je rejoins tout à fait ses observations, c'est que pour le moment, Lola a vraiment un très bon jeu combiné. C'est-à-dire que non seulement elle a réussi à faire de belles performances sur les épreuves, ce à quoi on ne s'attendait pas, elle a trouvé deux colliers, ce qui n'est vraiment, vraiment pas rien. Ses stratégies sont plutôt au point, elle n'a eu aucun mal à anticiper tout ce qui se passait jusque-là. Et voilà, sur le plan social, qui est vraiment le plan qui me semble le plus important vu de l'extérieur, vu que je n'ai pas vécu ce qu'ont vécu nos invités, mais de l'extérieur, j'ai vraiment l'impression que le plan social, c'est le plus important. Et disons que oui, il faut savoir arrondir les angles, et c'est quelque chose qu'elle a fait avec beaucoup de justesse en revenant sur ses propos de la veille. Et c'est ça qui est important, c'est que je serais tenté de dire que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir s'excuser, même si on a raison. Et disons que là, peut-être que Lola peut penser qu'elle a raison, mais il faut à tout prix arrondir les angles avec Brice. Et non, c'était avec qui déjà ?
Non, c'était avec Brice.
C'était avec Brice, ok, j'ai eu peur de me tromper. Donc il fallait à tout prix arrondir les angles avec Brice, et voilà, c'est ce qu'elle a fait. Il y a un moment pour tout, et je pense vraiment que pour le moment, son timing est très bon, partout. Et pour l'instant, vraiment, c'est la candidate qui, de loin, m'impressionne le plus cette saison.
Alors, on a Ozzy dans le chat qui dit « On peut comparer le jury management de Lola avec celui de Cindy. » Et du coup, bah, je vais me tourner vers Brice. Est-ce que tu vois un petit peu des similitudes comme ça entre Lola, sa gestion un petit peu émotionnelle et sociale, et une Cindy qui pouvait être peut-être un peu plus rentre-dedans? Parce que je me rappelle de l'épisode donc de ta sortie où tu tentes une stratégie contre elle, sauf que tu en fait avais sous-estimé son lien avec Claude, et du coup, elle vient te voir en disant « Bah écoute, moi j'ai le collier, donc fais ce que tu veux. » Est-ce que toi, tu vois des similitudes un petit peu entre les deux approches?
Bon, déjà, faut remettre les choses dans leur contexte. Les deux, déjà, elles possèdent un collier d'immunité. Tu vois, donc ça te... Quand t'es, toi, sur l'île et que tu sais pas qu'une personne dispose d'un collier d'immunité, tu réagis forcément pas de la même façon. Elles étaient vraiment en confiance, ces deux personnes-là. Après, pour parler de... C'est vrai que Cindy était plus rentre-dedans. C'est vrai, elle était peut-être plus directe, je pense. Et côté sociabilité, je pense qu'elle avait... Comment dire ? Je pense que Lola, est, niveau sociabilité, est un peu plus peut-être généreuse. Elle est toujours souriante. Le fait qu'elle aille s'excuser auprès de Brice, je trouve ça très mature de sa part. Puis il faut savoir aussi que Lola, elle est stratège depuis un petit moment déjà, parce que rien que de donner son collier à Angélique au conseil d'avant, c'est quand même une part de stratégie. Je ne sais pas si moi je l'aurais fait, parce que c'est quand même une grosse prise de risque. Mais il ne faut pas oublier qu'elle ne joue pas son collier non plus le soir du conseil. Donc je trouve que ces deux profils assez identiques, c'est vrai. Et pour en revenir à Cindy, forcément, de ma saison, moi en fait je sous-estimais pas. Moi en fait je suis allé dire à Claude, parce que j'avais parlé à certains aventuriers à la réunification, parce que si tu veux, quand on était en binôme, Cindy tombe avec Nicolas, et les deux, vraiment c'était les deux qui faisaient rien sur le camp, quoi. Le binôme qui faisait pas grand chose. Nicolas voulait se barrer depuis déjà peut-être une semaine. Et donc, j'en avais parlé à certains. J'avais émis l'hypothèse de potentiellement les éliminer. Et j'avais eu le ressenti que ça pouvait être entendu de la part de certains aventuriers. Donc, j'en ai parlé à Claude, qui m'avait certifié, avant qu'on atteigne la réunification, qui m'avait dit de façon, Brice, avec Maxime, toi et Maxime, je vous suivrai à la réunification. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui en parler à Claude, lui dire voilà, là, il y a un coup à faire. Cindy, il faut la sortir, quoi, parce que. Elle va nous la mettre à l'envers. Je sais qu'elle s'entendait pas très bien avec Max, donc j'étais persuadé qu'elle pouvait lui mettre un couteau dans le dos. Donc j'avais parlé à Claude de cette stratégie, et voilà, Claude en a parlé à Cindy. Et le fait que Cindy sorte son collier, écoute, les autres aventuriers ont un peu retourné leur veste, si je puis dire. Donc ça a joué en ma défaveur. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais c'est sûr que posséder un collier d'immunité à ce stade de l'aventure, ça te fait pas agir de la même façon aussi, quoi. Ça, faut y penser.
Non, c'est...
Mais Lola, très très fort, ouais. Lola. Très très fort, j'aime beaucoup Lola. Et voilà, je pense qu'on la sous-estime un peu tous, que ce soit dans les épreuves ou même dans la stratégie, parce que je ne sais plus qui a dit précédemment qu'elle faisait un peu naïve, et c'est vrai, hein, on peut le dire, à l'écran, elle fait naïve, toujours avec ce petit sourire, mais très très intelligente, Lola.
Mais du coup, moi, c'est très intelligent ce que tu dis. Je trouve que c'est que le fait d'être en confiance quand on a un collier qui permet d'avoir des stratégies en tête de manière beaucoup plus légère. Donc ça, tu fais... Ça t'a très bien fait de l'avoir dit. Du coup, Julie, toi, qu'est-ce que, par exemple, Lola comme aventurière et tout, est-ce que c'est un personnage qui te plaît? Est-ce que tu, ce côté un petit peu battante, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves?
Alors, comment dire, je me retrouve. Moi, ce que j'aime dans Lola, c'est qu'elle est tout le temps souriante. Voilà. Maintenant, on est quand même pas pareil parce que je trouve qu'elle use beaucoup de. Enfin, je trouve qu'elle est intelligente dans sa stratégie. Moi, je faisais aucune stratégie à chaque fois. On se ressemble pas du coup parce que en ça, hein, voilà. Je trouve qu'elle est très très maligne. Voilà. Elle sait faire de la stratégie, Lola. Et quoi d'autre Après, moi, j'ai pas vécu les mêmes choses parce que à chaque fois, j'ai trouvé des colliers, mais à chaque fois, je me suis pas retrouvée dans les mêmes situations. Mais bon, quand on trouve un collier, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on est trop content parce que voilà, on se dit ouais, super, ça va me sauver. Sauf que c'est quand même une situation délicate d'avoir un collier à la fois. Parce qu'on se dit, mais... Enfin, voilà, on a peur que quelqu'un le sache ou on a peur de se faire justement éliminer à cause du fait qu'on a un collier. Enfin, c'est pas facile d'avoir un collier au final. C'est bien d'en trouver un, mais c'est compliqué quand on l'a parce qu'on sait jamais quand le jouer, quoi en faire, etc. Donc, voilà, c'est le point commun que j'avais Lola, c'est que moi aussi, j'avais trouvé des colliers, voilà. Dans chacune de mes aventures.
Et puis, t'étais toujours souriante aussi, Julie, comme Lola. Donc, c'était très avenante, quoi. On avait envie de venir vers toi.
Voilà. Après, voilà, c'est vrai que le point commun qu'on a aussi avec elle, c'est ça, c'est qu'on est souriantes toutes les deux. Et c'est vrai que ça, c'est un super avantage. Et quelque part, stratégiquement parlant, même si on n'est pas stratège, le fait d'être souriant, c'est une bonne stratégie aussi, parce qu'il vaut mieux s'entendre avec tout le monde pour aller au plus loin dans l'aventure. Donc, mais ça, je pense qu'elle est naturellement souriante et voilà, comme moi. Donc ça, c'est un sacré avantage. Voilà.
Ensuite, SLZ, à qui j'ai pas demandé l'avis, sur Lola, tu penses quoi de Lola, de sa stratégie et du fait qu'elle arrondisse les angles avec Brice?
Pareil, hein, je pense qu'elle calcule très bien son coup. Comme dit Gino, vaut mieux s'excuser, arrondir les angles le lendemain et se mettre un petit peu Brice, pas dans son camp, mais le fait de s'excuser, etc., ça laisse une porte ouverte pour la suite, parce que je pense que Lola, son objectif, c'est d'arriver au moins jusqu'à l'orientation. Si elle peut emmener Angélique et Fabrice avec elle, elle le fera. C'est pour ça aussi qu'elle a permis à Angélique de se sauver. Après, pour son collier, je pense que si elle le donne à Angélique au conseil d'avant, c'est parce qu'elle en a deux. Je pense pas que si elle en a qu'un seul, elle aurait joué ce risque-là.
Ouais.
Et c'est Bertrand Camel qui le dit à la résidence du jury final. Tout le monde dit, mais elle est complètement folle de donner son collier, un collier même à ton meilleur allié. Faut pas le faire. Bertrand Camel, lui, il va chercher un petit peu plus loin et se dit, à mon avis, c'est qu'elle a une bonne raison. Et cette bonne raison, ça doit être le deuxième collier qu'elle a et qu'elle peut jouer soit sur le prochain conseil ou soit sur le conseil d'après, parce que voilà, il reste deux conseils, elle a un collier. Donc elle est plutôt très bien partie pour aller au moins à l'orientation.
Ouais, mais si elle le donne pas Angélique, elle est quasiment certaine d'y aller. Tu vois, c'est quand même une grosse prise de risque. Enfin, moi je trouve que c'est une grosse.
Oui, elle est quasiment certaine, oui. Après,
c'est vrai.
Oui. Après, peut-être qu'elle se dit également, j'ai gagné déjà 3-4 épreuves, il suffit de me gagner une immunité pour aller au bout. Donc, elle a la capacité, et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une grosse surprise de voir Lola gagner autant d'épreuves. Voilà, elle déjoue tout pronostic.
Alors du coup, on va passer tout de suite à l'épreuve de confort qui voit la formation des binômes. Alors, donc, je vais les récapituler. Donc, Dorian et Angélique, peut-être un binôme très intéressant parce que c'est deux membres de deux alliances différentes. Lola Fabrice, donc le binôme du Nord. Brice Ava, donc les deux restants des rouges avec Fabrice. Loïc Alexandra, on va reparler avec toi, Julie, parce que là, il va y avoir l'affaire. Et enfin, Alix Laurent, donc les deux éliminés. Donc, cette épreuve de confort donc, consistait en une espèce de parcours pour donc, jeter des noix de coco dans un filet dans lequel il y avait des pièces. Et une fois après un petit parcours, on doit poser les 20 pièces de la manière qu'on veut pour en faire une espèce de tour qui tient en qui doit tenir 5 secondes. Voilà, donc c'est donc une épreuve, encore une fois, il me semble qu'elle est aussi tirée de Survivor, parce que tout le truc avec le filet, avec l'atout, il me semble avoir déjà vu, je ne saurais pas dire dans quelle saison, mais c'est une épreuve, encore une épreuve adaptée de l'émission américaine, une très bonne épreuve, très ludique, et c'est le duo Lola-Fabrice qui gagne. Est-ce que vous avez apprécié cette épreuve, vous autres? Du coup, je vais commencer par SLZ, puisqu'on est déjà fini par toi.
Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc, une épreuve où le début de l'épreuve, ça aurait été bien pour un LeBron James. Après, blague à part, non, c'est voilà, il y a une grosse partie d'adresse. C'était une épreuve assez intéressante à suivre. Après, je me suis dit, je m'attendais à ce que la preuve n'aille pas jusqu'au bout, parce que pour moi, empiler 20 blocs de bois sans que ça tombe sur un petit rondin, ça partait mal. Et au final, toute la maîtrise de Lola et de Fabrice ont fait la différence. Donc ouais, c'était plutôt sympa à suivre. Il y avait un petit peu de tension, c'était incertain. Tout le monde avait parti à chance égale, donc c'était assez intéressant à suivre.
Julie, alors par contre, Julie, il faut que je te confesse quelque chose, c'est que ta saison, je n'en ai vu que des extraits, donc désolé si mes questions tombent un peu à côté. En fait, Julie, toi, par exemple, est-ce que tu appréciais beaucoup les épreuves comme ça, un petit peu à la fois bon, d'adresse, mais aussi un peu de puzzle? Est-ce que c'est quelque chose que tu appréciais?
Ah ben, forcément. J'ai envie de dire, c'est là que j'ai gagné des épreuves, en fait, dans les deux fois où j'ai participé à Koh-Lanta. C'était tout ce qui était épreuve de concentration ou d'adresse. Donc, oui, moi... On va dire que c'était plutôt mon point fort.
Mais du coup, toi, est-ce que tu as apprécié cette épreuve, toi, tout simplement, cette épreuve de confort avec donc les 20 pièces qu'on doit empiler comme ça sur un petit rondin?
Ouais, c'est sympa. Ouais, ça c'est sympa, forcément. Bon, c'était bien, il me semble. Après, il fallait se porter les uns sur les autres. Moi, perso, avec le poids que je fais, on n'aurait pas pu me porter. Donc, il aurait fallu que je porte un garçon sur mes épaules, à mon avis. Non, parce qu'on a beau perdre 10 kilos, moi je faisais mon poids quand même, je suis pas lourde.
Arrête
là,
Julie, t'étais parfaite.
Ah. Il faudrait que je refasse pour perdre à nouveau 10 kilos là. Ah ben oui, le confinement. Mais non, mais j'ai bien aimé, je connaissais pas cette épreuve là. Et à part que, bon, quand il faut lancer des choses dans un panier, ça justement, tout premier épisode de ma première saison, eh ben. C'était une épreuve où on lançait des noix de coco dans un panier. Et figurez-vous que j'étais la meilleure lanceuse de noix de coco. J'en ai pas mis une à côté. Et ça m'a sauvée parce que sinon, j'aurais été éliminée vu que j'étais une des plus faibles physiquement, quoi. Voilà, sportivement. Ouf, je suis bien heureuse d'avoir commencé par le lancer de noix de coco. Ça m'a... Voilà. Et donc, ça m'a fait penser à ça un peu, cette épreuve-là. À part que là, c'était des rondins de bois.
Très bien. Alors du coup, merci pour ces précisions. Je vais demander à Brice.
Allez, non plus.
Ouais. Ben écoute, nous on a eu une épreuve identique à celle-ci durant la guerre des chefs. Nous c'était, moi j'ai pas participé avec Cindy puisqu'on a tiré la boule noire, mais c'était une épreuve identique. On devait placer des pièces de bois, donc faire une tour avec et le bas de la le sol, en fait c'était sur une comment t'expliquer ça, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était sur une toute petite, il y avait un seau d'eau en fait, et la première pièce de bois était posée directement sur l'eau, et ensuite on devait empiler les pièces de bois directement par dessus, donc ça bougeait, ça vacillait un petit peu. Moi j'ai pas participé hein, parce que j'ai tiré la boule, mais ça m'a fait penser à cette épreuve là. Donc, écoute, c'était une épreuve sympa. Moi, je préfère quand c'est un peu plus physique. Donc, j'aurais préféré peut-être une épreuve un peu plus physique, parce que je trouve que ça amène peut-être un peu plus de peps. Et moi, je sais que durant ce genre d'épreuve là, avec des puzzles, tout ça, moi, je pète un câble. Je peux pas. Je pense que j'aurais pas pu rester calme, quoi. D'ailleurs, on le voit, Fabrice, à des moments, des fois, il est un peu en panique. Hein. Il y a Lola qui est là pour le remettre dans le droit chemin. Mais En tout cas, très content que ce soit Lola et Fabrice qui gagnent cette épreuve, parce que j'étais pour eux sur cette épreuve-là. J'aime beaucoup Fabrice et Lola également, donc très 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 heureux du dénouement.
Mais ouais, ce que tu dis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que cette épreuve, en gros, il y a tout un aspect gestion de la frustration, en fait, parce que tu fais la tour 20 fois et tombes 20 fois, c'est justement là où il faut rester lucide, où il ne faut pas s'énerver, et justement, c'est là où la dynamique des binômes peut être intéressante, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, Lola qui calmait justement Fabrice qui commençait à s'énerver. Je pense que tout cet aspect-là aussi est très, très important, et c'est là, je pense aussi que les binômes, que la gestion émotionnelle, et ça on en parlera après justement avec le cas Loïc Alexandra, c'est là où la gestion émotionnelle justement entre les binômes, la façon dont ils interagissent, peut faire ou défaire justement une victoire.
Ah oui, t'aurais mis par exemple, il y aurait eu une Hadja avec une Alexandra ou une Alix, tu vois, ça aurait été, elles n'auraient pas su garder leur calme, je pense.
Ah, c'est vrai que Hadja, Alix, deux nerveuses, oulala, ça... Ça aurait été compliqué, je pense. Ensuite, bah, du coup, la personne à qui je n'ai pas demandé, c'est Gino.
Alors, sur ce type d'épreuve, voilà, j'ai dit du mal de la preuve tout à l'heure, je vais pouvoir contrebalancer. J'aime beaucoup le fait que la prod cette année cherche vraiment des épreuves de plus en plus diverses. On en a déjà parlé plusieurs fois par le passé, mais je pense qu'on ne le dira pas, on ne le dira jamais assez. C'est parce qu'il y a quelques saisons encore, on allait d'une épreuve physique à une autre épreuve physique à une autre épreuve physique. Alors, je ne vais pas dire du mal des épreuves physiques, c'est une part intégrante de Koh-Lanta. Il faut le respecter, mais disons, le problème, c'est que quand toutes les épreuves sont comme ça, bah, ça les rend au fond très prévisibles. C'est-à-dire que les parcours d'obstacles, on peut en faire 20 variations, Claude gagnera toujours avec une minute d'avance. C'est ça, alors qu'un puzzle, il peut y avoir du doute qui s'installe même sur la personne qui est la plus capable. Comme on le dit, il y a une grosse question de gestion de l'énervement. Ça rend les épreuves beaucoup, beaucoup, beaucoup moins prévisibles. Et je pense que... quand elles sont bien dosées en termes de temps, je pense que ça fait un meilleur spectacle niveau télévisé et ça équilibre les chances des joueurs. Donc vraiment, je pense qu'il y a tout à gagner à ce que Koh-Lanta persiste dans cette nouvelle orientation sur les épreuves. Et pour le coup, je dis souvent du mal de la prod, mais là, bravo.
Alors la suite, donc le moment entre le confort et l'immunité, bon, on a vu Lola et Fabrice manger des crêpes. Donc voilà, petit. Ouais, petit confort sympa. Bon, voilà, c'est toujours les scènes qui sont sympas, mais qui durent peut-être un poil longtemps, c'est vrai. Ensuite, en termes de discussion sur le camp, donc on les voit manger un cafard aussi, ça c'est. Donc, Julie et Brice, vous avez jamais été tentée de manger ce genre de truc?
Quelle horreur!
Ah, nous. si, moi, avec Maxime, sur notre camp, on a mangé des larves. On avait trouvé des œufs de lézard qu'on avait mangé aussi, mais la prod a ensuite été intervenue et nous avait dit d'enlever tout ça, donc c'était pas passé. Mais ouais, si, on avait mangé des araignées aussi, on mangeait avec Max. Et ensuite, parce que j'avais montré comment les choper à la réunif, et ils en avaient attrapé après avec Angélique, je m'en souviens. Donc ouais, des petits trucs comme ça. Mais bon, si tu veux, ça c'est plus pour le délire télévisuel, alors on va pas se mentir, parce que manger trois pattes d'un cafard, ça va rien changer. ou trois pattes d'araignée, ça va rien changer. Donc ça, c'est plus pour.
Ah là là.
Non, mais c'est vrai. Tu vois, Julie, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bah, je vois surtout que moi, je les ai pas mangés. Hein.
Non. Par contre, le vrai scandale que je trouve dans la dégustation de cette année, c'est la pastèque au chocolat.
Oh putain. Ah oui. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Là, Lola a perdu des points terribles.
Ah bah là.
Ah oui.
Ah non. La pâte tartinée, c'est à la cuillère. Tu la manges à la cuillère, à la cuillère à soupe même, c'est tout. Tu mets rien avec.
Ah, là, je te rejoins. Pour les cafards, non. Pour les araignées, non plus. Mais le chocolat, oui.
Mais ça, ouais, attends, la pastèque au Nutella. Ouais, c'est bon. Et surtout, je me dis, c'est que les deux goûts vont vraiment pas ensemble, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est la pastèque, ce côté très aqueux, très, très frais et tout. À côté que le Nutella, ça doit être très, très chelou en bouche. Et justement, je voulais rebondir sur un truc, Brice, parce que moi, je me rappelle de ton portrait lors de ta saison, où en gros, tu disais, tu avais fait beaucoup de voyages en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, et du coup, c'est vrai que tu étais plutôt habitué avec ce genre de bestioles, parce que, alors, là, je vais dire, c'est que le live qu'on avait fait avec Space Babies, du coup, il y a quoi, 2-3 semaines, où tu disais que aussi, toi, par exemple, c'était Mohamed qui avait une peur bleue des serpents, et toi, justement, tu t'amusais à les choper et à lui courir après avec les serpents.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est arrivé dès le premier jour. D'ailleurs, je me suis vraiment fait engueuler par la prod. Hein. Denis avait dit à la première épreuve que si jamais je refaisais ça, je pouvais être exclu du jeu et tout. Parce que si tu veux, le premier jour, on est tous ensemble, tous les aventuriers sur la même île. Et donc, on est les 21 aventuriers. Et au coin du feu, on se raconte un peu tous nos parcours de vie, tout ça. Et moi, je disais que ça faisait 5-6 ans que je voyageais beaucoup en Asie du Sud-Est et que j'adorais partir quelques jours en jungle pour me nourrir de ce que je trouvais. Donc, je partais 5-6 jours en général avec un indigène, une personne locale. Et on dormait dans la jungle, on mangeait ce qu'on trouvait, tout ça. Et je disais que j'adorais les serpents, tout ça, parce que c'est un de mes animaux préférés. Et le lendemain, il y a Xavier qui vient me voir, qui me dit « Ouais, Brice, viens, on va le long de la plage un peu voir si on peut trouver du crabe, tout ça. » Donc on part, et je l'entends gueuler. À un moment donné, il était peut-être à 30 ou 40 mètres devant moi, dans les rochers. Donc je le rejoins, et en fait, il y avait un gros serpent, 1m20 à peu près, un tricorier. Moi, je reconnais direct ce que c'est. Donc c'est un serpent avec des anneaux, c'est un serpent marin, c'est un serpent mortel ça, mais qui n'est pas du tout agressif. Donc c'est facile à attraper. Et donc je me pointe sur la plage avec ce serpent qui est vivant, puisque je le tue pas, je sais pas si on peut le manger, tout ça. Et donc parce qu'au début, on va pas se mentir, au début il faut se montrer un petit peu, voilà, montrer que t'as l'âme d'un aventurier pour pas te faire éliminer, tu vois. Et donc après, la prod avait pété un câble en disant que c'est un serpent mortel, et on arrive l'après-midi sur l'épreuve où Denis apprend ça et je me prends un savon, quoi. Et durant les jours d'après, je continuais à les attraper, mais quand il n'y avait pas les caméras, je courais après Mohamed parce qu'il avait une peur bleue des serpents, effectivement, donc je trouvais ça très drôle. Mais j'ai vite arrêté quand même, parce qu'il aurait pu m'arriver des broutilles.
juste, Brice, ouais. Si un jour on fait Koh-Lanta ensemble et que tu me fais ça, je pense que je te noie.
moi, j'ai beaucoup ri sur le moment, Momo un peu moins, mais... Mais ouais, non, c'était des bons souvenirs comme ça qui resteront, donc voilà. Et un lézard aussi, oui, je vois des commentaires, on avait mangé du lézard aussi, mais c'est vrai, oui.
Alors du coup, Gino, en gros, disait quelque chose de drôle sur le chat, mais tu vas pouvoir nous en dire plus. Il dit, le coup de la pastèque au Nutella, ça rejoint la théorie de SoFood, selon laquelle le lard en fait 8 ans et on s'en rend pas compte.
Ben oui, c'est pas faux. Ben déjà, physiquement, elle a un visage très enfantin, tu vois. Elle fait quand même très jeune, Lola. Je sais pas quel âge elle a, d'ailleurs. Elle a quel âge ?
22.
Quel âge ?
22.
Ah oui, oui. Donc
22 ans.
Elle est jeune, quand même. D'accord. Oui, non, mais même ce petit sourire, c'est vrai qu'elle fait un peu gamine, mais, elle est pas, mais dans sa tête, elle l'est pas du tout, en tout cas. Ça, c'est...
Ah, elle est très intelligente.
Très intelligente, Lola, je pense.
Et on va pouvoir aussi passer, parce que là, c'était juste avant l'épreuve de confort, à des interactions sympas entre le binôme Loïc-Alexandra. Donc, on voit Alexandra qui dit, moi, quelque chose qui est très intelligent, c'est justement, elle réfléchit énormément avant les épreuves, justement, à comment trouver des petits stratagèmes, en fait, pour gagner du temps sur les épreuves et pour pouvoir faire en sorte de les gagner. C'est, moi, ça me fait penser un petit peu, moi, comme j'aime beaucoup le football, pas mal de clubs qui, par exemple, vont faire de la recherche un petit peu sur la réalité virtuelle pour augmenter l'aspect cognitif, ou pour les clubs qui vont acheter des matelas spéciaux pour les joueurs, ça se fait beaucoup, pour optimiser le temps de sommeil et tout ce genre de choses. C'est vraiment les petits coups annexes qui additionnés, peuvent faire une victoire ou une défaite. Donc, j'avais trouvé ça très, très intéressant de la part d'Alexandra. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est Loïc qui se moque un peu gentiment d'elle en faisant un peu, bon, les fans de Survivor vont le savoir, hein, qui sont un petit peu le lama comme Tony dans la saison 28. Et Loïc, surtout, qui gère un petit peu l'agacement comme ça d'Alexandra, parce qu'on sent qu'elle n'en peut plus, qu'elle a envie d'en découdre, qu'elle réfléchit beaucoup, et du coup, qu'il s'évertue à calmer un peu son anxiété. Et du coup, bon, Julie, tu sais que c'est à toi que je vais parler. Mm-hmm. Du coup, la personne peut-être, on va dire, avec laquelle c'est plus facile de faire des parallèles avec toi, c'est Alexandra. Parce que Alexandra, comme ça, qui a quand même une personnalité très, très atypique et qui, comme ça, sur les épreuves, a cette espèce vraiment d'excitation telle. Moi, je me rappelle, bon, parmi les extraits que j'ai vus, où tu prenais que chaque défaite, où tu hurlais parce que limite, on avait l'impression que tu jouais ta vie un petit peu comme ça. Et toi, ce que je voulais te demander, c'est vraiment, c'est au niveau de la gestion émotionnelle, c'est comment tu ressentais ça justement avant les épreuves, comment tu ressentais cette espèce d'excitation, de nervosité, comment t'arrivais à gérer ça et comment justement les gens peut-être autour de toi essayaient de gérer ça, de faire en sorte que tu, peut-être que tu te calmes un peu et que tu te concentres davantage.
Alors, moi, avant d'attaquer une épreuve sportive, positive, vu que je ne le suis pas. J'avais un grand stress parce que je me disais, il faut te donner à fond, surtout que, voilà, à chaque fois, ta place peut être mise en jeu. Si on remarque, de toute façon, tout le monde avait remarqué que j'étais pas sportive. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà, avant une épreuve, à chaque fois, j'avais beaucoup de stress. Je sais pas, et ça me transformait, enfin, je me mettais hors de mon corps. Et du coup, je me donnais à fond. Mais non, mais après, mes collègues, mes copains d'aventure, ils essayaient pas de me calmer parce qu'au contraire, ça me donnait de l'énergie pour me donner à fond dans une épreuve. Donc non, au contraire. Après, c'est vrai qu'Alexandra me fait penser un peu à moi dans le côté atypique parce qu'elle parle de Wonder Woman, tout ça. Moi, voilà, c'est le côté où on se rejoint un peu. Et sauf qu'après, bon, après, on n'est pas tout à fait pareil dans le début d'aventure. C'est vrai qu'elle ronchonnait toujours un petit peu, comme ça. Là. Moi, non. Ça, c'est vrai, j'étais toujours souriante, toujours positive, toujours à fond. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle me fait penser un peu à moi quand même. Elle est rigolote. J'ai beaucoup aimé ce fameux duo Loïc avec Loïc. Il m'a fait beaucoup rire Loïc parce qu'il disait « Calme-toi, calme-toi ». Et j'aurais adoré faire un binôme avec lui, mais ça aurait été trop rigolo. Voilà, ils me font rire tous les deux. J'adore, vraiment. Et j'avoue que là, j'aurais bien aimé être à la place d'Alexandra. C'est très rigolo, là, leur binôme. J'aime beaucoup.
Et c'est vrai que le parallèle avec Alexandra, comme je te dis, entre toi et Alexandra, c'est on ne peut que le faire, hein, parce que c'est vrai que c'est cette même énergie, même si je pense peut-être qu'Alexandra est peut-être plus stratège que toi.
Peut-être. Je ne sais pas du tout. Moi, j'avoue que j'étais juste, je pensais à profiter à 1000% de ce que je vivais à chaque instant, parce que c'est tellement extraordinaire. À chaque fois, je n'en revenais pas d'être là. Voilà, et oui, après moi, c'est vrai que j'avais pas le côté de stratégie, j'avoue, je voulais juste profiter de chaque instant, vivre à fond les choses, et voilà, c'était le plus important pour moi. Positive attitude.
Voilà, comme le dit Madar dans le chat, donc Julie avait toujours la positive attitude, comme dirait Raffarin. Ouais, bah, on l'appelle Madargine Ruquier, c'est pas pour rien. du coup, je vais demander à Arnaud, toi pareil, le binôme Loïc et Alexandra avec Loïc qui essaie de la calmer. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que justement de l'aspect un petit peu émotionnel comme ça de Loïc par rapport à Alexandra, est-ce que c'est un duo qui t'a amusé?
De toute façon, les deux font partie des persos que j'adore cette saison parce que voilà, ils ont cette énergie positive parce que mine de rien, Alexandra. Bon, elle est toujours un petit peu sur les dents et tout, mais elle dégage tellement de sympathie que, au final, c'est plutôt amusant à voir. Et le duo, je pense que c'était le duo parfait. Hein. Je l'ai même mis sur Twitter. C'était Olivier Hatton et Ben Baker pour ceux qui ont vu Olivier Tom. C'était voilà. Et Loïc avec son calme, avec son sang-froid, parce que je pense que les activités qu'il fait en dehors, Loïc, où voilà, il est un petit peu casse-cou, etc. Où t'as besoin d'avoir du sang-froid. Ça a beaucoup aidé Alexandra et ça a fait cet équilibre qui a fait que pendant l'épreuve d'immunité. Il a su la guider et lui baisser son taux de stress et ça a fait le résultat que ça a donné où voilà, ils ont eu une avance énorme et à côté de ça, bah, on a vu d'autres duos qui géraient un petit peu moins le stress, qui géraient un petit peu moins le côté dramatique de l'épreuve. Voilà, ça a été un petit peu plus compliqué pour d'autres, alors que Loïc et Alexandra, déjà l'entente naturelle entre les deux aussi a fait que ça s'est bien dégoupillé, quoi.
Gino.
Alors, le duo Loïc-Alexandra, je vais rejoindre un petit peu tout le monde. C'est vrai que le décalage entre les deux est très amusant, puisque Alexandra, sur les épreuves, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche d'une pile électrique, c'est qu'elle bouge dans tous les sens, elle est surexcitée, mais elle réussit tout à fait à être performante malgré ça. Hein. C'est-à-dire, c'est plus une apparence d'excitation que quelque chose qui lui nuit. Donc, au contraire, c'est une force pour elle. Et de l'autre côté, on a Loïc, qui est quelqu'un très sympathique, mais qui donne l'impression d'être quelqu'un d'imperturbable. On l'avait bien vu au moment des ambassadeurs à quel point il était resté complètement stoïque face à Aja qui tentait tous les bluffs du monde. Donc vraiment, c'est vraiment un choc de personnalité, mais entre deux personnes qui s'apprécient. Donc du coup, c'est quelque chose qui renvoie une énergie très positive. Ça rend le duo très plaisant à suivre et un petit peu comique grâce à ce décalage-là. Donc vraiment, c'est un duo qui a très bien marché, qui était sûrement une des meilleures choses de l'épisode. Bon, certes, c'est pas exactement quelque chose d'énorme puisque l'épisode a quand même été un peu plat pour un épisode des Bilômes, mais vraiment, le binôme Loïc-Alexandra était à la fois génial à suivre et à la fois une très bonne combinaison pour l'épreuve puisque l'énergie d'Alexandra en épreuve, elle sait très bien s'en servir dans le bon sens et Loïc, imperturbable, parfait.
Ensuite, Brice.
Écoute, c'est vrai que c'est un peu les deux extrêmes. Moi, pour parler brièvement d'Alexandra, c'est vrai qu'elle a l'air d'être une personne très stressée, mais moi, je ne sais pas comment t'étais, Julie, durant tes deux saisons, mais moi, avant chaque épreuve, c'était le stress total.
Hein. Ah ouais.
Je me posais plein de questions, c'est horrible. C'est les moments que j'ai testé le plus, moi, juste avant de commencer l'épreuve.
Pareil.
Tu vois, les 2-3 minutes avant de commencer l'épreuve, moi, je me posais plein de questions dans la tête. Après, je montrais peut-être moins qu'Alexandra, mais c'est vrai que moi, ce n'était pas un moment que j'appréciais. Quoi.
Ah non, pareil.
Mais Alexandra, elle est perchée, elle est dans la lune tout le temps, elle est extraordinaire. Moi, elle me fait penser à un pote à moi qui est complètement dans la lune tout le temps aussi. C'est à se demander s'il n'y a pas des plantations de bœufs qui sont posées sur l'île quoi, et qu'elle les fume, quoi, parce qu'elle est vraiment... Non, mais c'est vraiment extraordinaire. moi, j'adore le personnage. En fait.
Ouais, c'est vrai. Et juste en anecdote, dans les tout premiers commentaires que les gens faisaient à mon sujet dans la première saison, et ils avaient un peu dit ça aussi. Ils avaient dit mais qu'est-ce qu'elle prend, Julie ? On en veut. Ça m'avait fait vivre. Non, c'est naturel. C'est comme Obélix tombé dedans quand il était petit. Voilà, peut-être. Je sais pas. Ça.
Mais encore une fois, Loïc, du haut de ses 20 ans, il fait preuve d'une grande maturité parce qu'il arrive à la canaliser assez vite, je trouve. Hein. Donc Loïc aussi, on n'en parle peut-être pas trop, mais c'est un sacré candidat, hein, je pense. Sacré aventurier.
On l'a dit vraiment sur des précédents podcasts, c'est que Loïc, c'est vraiment...
Ah, pardon, ouais.
Pote, hein. Il n'y a pas de souci. C'est le bon pote, en fait. C'est quelqu'un...
Oh, mais tellement... C'est ça.
Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment ce pote qui a le cœur sur la main, qui est toujours prêt à écouter, qui est toujours prêt à t'amener à faire une petite raclette sur les montagnes, et du coup il a vraiment cette capacité un peu sociale, c'est-à-dire ce côté un peu nounours quoi, au final, c'est qu'on sent qu'il aime sincèrement l'autre, qu'il aime sincèrement les gens et que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main. Et du coup, c'est pour Alexandra, justement, qui est quelqu'un qui est un peu dans son monde, mais qui avait besoin de ça, qui avait besoin aussi de cette bienveillance pour peut-être pouvoir un petit peu se calmer. Et c'est ça qui a fait que ce binôme a si bien marché, comme on va voir par la suite.
Enfin, moi, j'aime beaucoup Loïc, en tout cas, et j'espère qu'il ira très loin.
Je pense qu'il ira très loin, parce qu'il a quand même un bon montage, et je me demande si ce ne sera pas le vainqueur de cette saison.
En tout cas, il a perdu beaucoup de poids. Ça, je voudrais vous poser une question.
Je le mets dans mes favoris.
Moi, je ne suis pas non plus un fan exceptionnel. Je n'ai pas regardé toutes les saisons de Koh-Lanta, hein. Mais je trouve que cette saison, je ne sais pas, vous les fans, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller, mais... Je trouve que cette saison, on voit vraiment que les aventuriers ont perdu énormément de poids par rapport aux saisons précédentes, je trouve, moi. Surtout les hommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, mais sur ta saison aussi, Brice, on avait vu que vous aviez perdu du poids. Moi, je trouve qu'on le voit bien, hein, entre le début et la fin. Non.
Ouais, mais là, je trouve que, tu vois, Loïc qui était grand gaillard costaud, là, on voit vraiment qu'il a perdu. Brice et Dorian, c'est deux cerfs-volants, on dirait. Bon,
c'est vrai.
On est mal.
C'est vrai.
Ils sont vraiment fin, quoi. Je trouve qu'ils... Enfin, moi, j'ai trouvé, j'ai ressenti comme ça, en tout cas.
Alors, donc, avant de passer donc, à l'épreuve d'immunité, un petit point comme ça sur les autres. Et c'est vrai qu'à ce moment de l'épisode, on se dit, c'est cuit pour Brice et Ava, parce que les deux, on voit vraiment qu'ils sont au fond du trou. On voit que Ava, qui était complètement invisible, a eu plusieurs confessionnaux. On se dit, là, ça va être cuit pour eux. On voit aussi Dorian qui se crame le doigt avec une machette. Donc, ça a été beaucoup de séquences de vue de camp qui n'étaient pas forcément passionnantes. Mais on va passer à l'épreuve d'immunité. Et cette épreuve, C'était une excellente épreuve aussi. Donc, il y avait une partie où il fallait être à deux, prendre trois palets avec deux bouts de bois pour les tenir en équilibre. Il fallait traverser un petit un parcours avec des barrières qu'il fallait enjamber, il fallait ramper, il y avait le filet. Et ensuite, il fallait avoir ces six palets pour lancer les palets sur des plateformes. Donc, vraiment, jeu d'adresse, de gestion de la force.
Ouais.
Et enfin voilà, moi, pour moi, c'était vraiment une excellente épreuve, encore une fois, qui cette fois-ci.
Non, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était une bonne épreuve, ça.
Ah oui, et là, toi, je ne vais pas stresser pour ce genre d'épreuve.
C'est un peu tout.
Ouais.
Ouais. Ouais, non, c'était. J'ai beaucoup aimé l'épreuve, parce que là, tu devais vraiment faire corps avec ton coéquipier. Donc là, c'était vraiment, tu gagnais à deux, tu perdais à deux, vraiment sans. Enfin, t'étais dans l'obligation d'être très proche de ton coéquipier. Et ouais, c'est une épreuve que j'aurais bien aimé, à laquelle j'aurais bien aimé participer, parce que je pense que c'était intéressant.
Ouais.
Gino, toi, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette épreuve, de ce qu'elle a porté, de sa dramaturgie?
Eh bien, je vais sur cette épreuve-là, honnêtement, je pense que je vais beaucoup rejoindre ce qui a déjà été dit, c'est le fait que c'est vraiment une épreuve qui colle très 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 bien avec l'idée des binômes, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une épreuve qu'on ne peut pas gagner l'un sans l'autre, alors qu'il y a beaucoup d'épreuves où même quand on essaye de faire le tournant des binômes, on a quand même l'impression qu'il y a un des deux candidats qui fait quand même 90% du boulot. Là, on pouvait vraiment pas gagner l'un sans l'autre. C'est vraiment un très bon choix là-dessus. Après, en termes de dramaturgie, je dirais que je sais que ça peut paraître un peu évident une fois qu'on en après coup, mais disons que en termes de dramaturgie, par contre, j'ai rapidement détecté que quand même la victoire me semblait assez vite se dessiner en faveur de Loïc Alexandra, donc je dirais qu'en dramaturgie, ça n'a peut-être pas apporté ce que ça aurait pu, vu qu'on a quand même un binôme qui a très très bien travaillé là-dessus, mais honnêtement, c'est un bon choix, et puis c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu plus de suspense, mais Loïc Alexandra ont juste été trop forts, et il faut le saluer.
Alors, c'est ça qui était drôle aussi sur cette épreuve, c'est que vraiment, on pouvait voir... Ben, c'est-à-dire le résultat de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire la très très bonne
cohésion,
connexion, entre Alexandra et Loïc. C'est-à-dire que Loïc qui l'encourageait, dit respire, souffle, calme-toi, et où il n'y avait vraiment pas de geste brusque, où tous les gestes étaient quand même assez lents, assez enfin, ils prenaient leur temps, et justement, c'est en ça que Loïc, justement, a été très bon en tant que gestionnaire un peu émotionnel du binôme. C'est-à-dire, c'est justement ce qu'il ne faut pas, c'est faire des gestes brusques et puis s'impatienter. Et comme on l'a vu, alors les pauvres Ava et Brice, qui n'ont même pas dépassé deux étapes du parcours. Et puis, on voit, bon, Brice, alors le pauvre Brice, lui, pareil, je crois qu'il est le pauvre, il est complètement à bout. Émotionnellement, physiquement, ouais. Il est à la ramasse, le pauvre, quoi. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'avec sa musculature, quand même très fine, il est musclé et très fin, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'explosivité sur le début de l'aventure, mais là, au bout de 30 jours, on sent que là, il tire sur la corde raide, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, justement, de Brice et d'Ava, justement, sur cet épisode et sur cette épreuve. Tiens, Julie.
Ah, bah alors, moi, alors, Brice, il fait partie de mes favoris aussi, en fait. À vrai dire, j'ai quelques favoris comme ça. Donc, moi j'aime bien, mais bon, ça se voit qu'il est épuisé, le pauvre. Franchement, ça me fait peine parce qu'il est tout maigre maintenant. Enfin, bon, comme les autres aussi, ils ont faim et tout pareil. Et en fait, j'ai un avis un peu, comment dire, Ava, en fait... je l'ai un peu presque pas vu pas pendant tout le toute la saison, donc je l'ai vraiment découverte dans ce dernier épisode là, donc je saurais pas trop quoi dire sur ce binôme parce que voilà, je vous dis, enfin, je l'ai découverte vraiment là voilà, son caractère, etc. Donc autant Brice, oui, je saurais dire voilà, qu'il fait partie de mes favoris et qu'il est vraiment épuisé. Après, voilà, c'est vrai que les duos, c'est bien, les binômes, c'est bien quand, effectivement, quand on s'entend bien, etc. Mais là, je ne saurais pas trop donner mon avis parce que, voilà, parce que je n'ai pas trop découvert Ava, en fait. Donc, je ne saurais pas trop dire, en fait, je ne sais pas les autres que vous pensez, du coup, du duo, mais enfin, du binôme. Voilà, je ne saurais pas plus dire, du coup.
Alors, par rapport à Brice, toi, à Gino, tiens.
Alors, par rapport au duo Brice-Ava, en fait, je vais dire une chose, c'est que bah, malheureusement, c'est que comme on n'a pas beaucoup vu Ava dans les épisodes précédents, bah, du coup, j'ai pas beaucoup de moyens de resituer sa relation avec Brice si jamais ça semble être un duo qui va de soi comme Loïc et Alexandra, ou si c'est vraiment un duo où ça ne devrait pas marcher, vu qu'on ne voit presque pas Ava dans le montage. Après, voilà, en termes de personnages, c'est deux personnages que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire Ava, malheureusement, on ne la voit pas beaucoup et ça me frustre beaucoup venant de la prod, vu qu'elle a vraiment l'air d'être pleine d'humour, Ava. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air extrêmement sympathique et vraiment, je ne comprends pas pourquoi la prod ne joue pas plus dessus. Et Brice, en fait, Brice, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que on parle souvent des gens qui jouent stratégiques, des gens qui jouent selon le mérite sportif. Brice, c'est quelqu'un qui joue purement à l'affect. Et ça, c'est quelque chose... Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça dans le fond à Koh-Lanta parce que ça reste un jeu social. Mais disons que c'est quelqu'un avec qui ça se voit vraiment. Et disons que c'est quelque chose qui le rend très, très attachant.
Arnaud ?
Oui. Oui, ben Ava, ouais, c'est un petit peu comme le ressenti général. Quoi. Malheureusement, on ne la voit pas assez au montage. Et c'est dommage parce que ça a l'air d'être une personnalité très très intéressante, en plus qu'il y a une touche d'humour et qui voilà le peu de confesse qu'elle a, il y a toujours une petite punchline ou quoi, donc c'est assez sympathique, donc c'est dommage qu'on la voit pas assez. Et c'est pareil, j'arrive pas à resituer quelle était sa cote d'affinité avec Brice. Et puis Brice, ouais, bah c'est pareil, hein, il commence à être un petit peu dans le mal physiquement. On le voit, hein, il s'assèche de plus en plus. Donc voilà, c'était le binôme désigné pour être éliminé, selon moi. C'était les favoris à l'élimination. Et voilà, les choses se sont bien retournées pour le coup. Donc c'est plutôt plaisant quand ça va dans ce sens-là, quand on a une surprise. Mais j'espère que maintenant qu'il y ait plus que 8 candidats, si je ne dis pas de bêtises, on aura l'occasion de voir un peu plus ça va.
Et ensuite, bah, Brice, qu'on n'a pas attendu à ce sujet.
Ouais, bah écoute, ouais, Brice, c'est vrai qu'il est apparu faible, mais ça fait un petit moment quand même qu'on le voit souffrir. Hein. La semaine dernière aussi, il était dans le mal, il est dans le duo, et puis on a l'impression qu'il rend peut-être un peu les armes. Il y croit plus trop. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé durant l'épreuve. Après, il était avec Ava. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça donne sur le camp, sur les épreuves, parce que c'est vrai qu'on la, comme vous le dites bien, on la voit pas tant que ça. Mais comme je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, ben, je pense que globalement, tout le monde pensait ça aussi à ce moment-là. Mais ouais, moi, je voyais Brice et Ava se faire éliminer au conseil.
Est-ce que... On va dire, jusqu'à la fin de l'épreuve d'immunité, on se dit que ça va être pour eux, qu'ils n'y couperont pas, et ça aurait été un épisode assez prévisible. Et justement, ce que je me disais, c'est peut-être trop prévisible, justement, que c'est tout à fait possible qu'il y ait un petit retournement de situation derrière. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, comme vous l'avez dit, Loïc et Alexandra gagnent l'immunité. Et ensuite, les discussions se font. Et alors... Donc Gino a soulevé justement une question assez intéressante, on en parlera juste après, mais en fait on s'aperçoit que qu'il n'y a pas que Brice Ava qui sont visés, mais aussi Ali et Laurent. Et là, on se dit que Laurent, du coup, c'est peut-être un des personnages peut-être les plus complexes, parce que, alors on va pas se mentir, il aime bien s'écouter parler. Voilà, il parle envers les filles en disant, elle a les cocottes, elles font rien, gna gna gna, elles foutent rien. Voilà, on sent que son caractère agace notamment de la tribu. Et Alix, de son côté, qui, donc on avait déjà parlé aussi dans les précédents épisodes, c'est-à-dire qu'un des personnages aussi très intéressants, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui s'est réalisé via le sport individuel, mais qui a quand même une certaine grande sensibilité, une grande fragilité, une grande nervosité, ce qui explique aussi son côté un peu pet sec, comme l'a dit Laurent en interview. Et Les deux agacent. Et on se dit qu'il peut y avoir des votes contre elles. Déjà, je pense que les femmes veulent voter contre elles, sauf Lola. Donc, Lola et Angélique n'ont pas voté de concert. Donc, par exemple, vous, sur les performances, sur le camp, sur leur caractère, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, d'Alix et de Laurent, des deux, de cette dynamique-là? Du coup, Gino.
Alors, justement, tout à l'heure, j'avais un petit peu reparlé du fait que Koh-Lanta, c'est très multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a le sport, la stratégie, la survie et le social, et je dirais que typiquement, ce que me fait penser le montage de Laurent Alix, ça se trouve, c'est complètement faussé, je préfère prendre mes précautions, mais ce que me dit le montage de Laurent et Alix, c'est que le sport, ça va, la stratégie, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait spécialement de faux pas. La survie, oui, clairement. Mais le social, encore une fois, le social. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à voir dans Koh-Lanta, et je ne peux pas leur en vouloir parce qu'au montage, c'est très très dur à restituer. Mais c'est que Koh-Lanta, ça repose beaucoup sur le social. Et le truc, c'est que peut-être que Alix donne une image trop froide. Ce qui est dommage, vu que de ce qu'on a pu voir d'elle en dehors de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux, c'est l'air d'être une femme très, très sympathique, pleine de bon sens. Et Laurent, disons que voilà, c'est que à faire le petit chef sur les bouts de bois, à force, je pense que tout le monde en a eu marre, quoi. Et c'est ça qui leur a manqué à ce duo-là, c'est que il y a des tas de fois où on se dit, tiens, c'est dommage, un tel est tombé avec la mauvaise personne. Et du coup, ça a cassé. Là, on a l'impression que ils sont tombés sur les deux personnes qui s'étaient fait un peu trop d'ennemis, qui étaient un peu pénibles à écouter. Et encore une fois, c'est une impression du montage. Attention, ça se trouve, la réalité n'est pas du tout ça. Mais voilà, c'est que foncièrement, pour moi, leur duo, c'était un duo qui avait pour point commun d'avoir énormément de problèmes sur le niveau social. Et à Koh-Lanta, ça finit toujours par se payer.
Julie ?
À un moment donné ou à un autre, c'est sûr que ça compte beaucoup. Au début, allez, on élimine les plus faibles parce qu'il faut gagner en équipe. Après, on veut éliminer les plus forts parce que ils sont trop forts. Donc forcément, ils vont nous piquer la place au poteau, à l'orientation, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, quand on est très fatigué, qu'on a faim, qu'on n'en peut plus, etc., on est vraiment au bout du bout. Eh ben voilà, s'il y a quelqu'un qui est un peu pénible, je parle en général, hein, mais qui est un peu pénible, à râler tout le temps ou à crier ou que ci, que là, c'est à cette personne-là qu'on va penser pour le moment des votes au conseil. Donc, ils sont vraiment au bout, là. Donc, je pense qu'effectivement, maintenant, dans les conseils, ce qui compte, c'est qu'il faut être gentil avec tout le monde. Voilà. Et effectivement. Après, dans le montage, on voit tout le temps que, apparemment, c'est ça, Alix, ça faisait du bruit le matin en tapant en ouvrant les trucs, etc. C'est vrai, voilà. Et Laurent, il râlait tout le temps parce que c'était tout le temps lui qui allait chercher du bois. Après, c'est vrai que quand c'est toujours la même personne qui fait tout le temps tous, on a bien envie que les autres aussi participent. Alors, du coup, moi, je peux pas critiquer quoi que ce soit parce que je comprends qu'ils veuillent. Qu'on les aide, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est simplement dire, qui c'est qui m'aide à chercher du bois? Ou qui c'est qui m'aide à ouvrir notre coco? Ou qui c'est qui... Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout avant les conseils. En fait, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. C'est ça. C'est pas évident, hein, Koh-Lanta. C'est pas évident, voilà. Il faut être et sympa et un peu sportif. Enfin, et se donner à fond dans les épreuves, même quand on n'est pas sportif. Mais se donner à fond, il faut être sympa, il faut participer au camp. C'est complexe, hein. Mais c'est ce qui fait que c'est toujours plein de surprises, voilà.
Brice.
Globalement, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que les deux... en fait, je pense qu'Alix, elle a un très fort caractère. Mais je pense que tu peux dire les choses, tu peux te plaindre de certaines choses sur le camp si tu le dis avec le sourire et en mode un peu, de façon un peu rigolote. Mais quand tu le dis avec, quand tu le dis avec un visage froid, parce qu'Alix, elle fait... C'est froide quand même comme personne. C'est vraiment. En plus, elle est costaud, bodybuildée, elle fait guerrière un peu. Donc, si elle l'avait dit, peut-être avec. Parce que c'est vrai que c'est en plus couper du bois toute la journée, c'est super chiant. Ça te prend énormément de temps. Tu gaspilles énormément d'énergie. Mais à ce stade de l'aventure, T'arrives, voilà, vous êtes, on n'est plus que 10, t'arrives un peu vers la fin, tu vois un peu le bout du tunnel. Je pense qu'il faut un peu prendre sur soi et quitte à faire un peu le... pas faire le mielleux avec les autres, mais peut-être faire des remarques un peu plus, de façon un peu plus intelligente, peut-être n'aller pas, ne pas aller directement frontalement sur certains aventuriers. En plus, ils critiquent que les... Enfin, j'ai l'impression, encore une fois, comme tu le dis, Julie, c'est le montage, donc on ne sait pas trop ce qui se passe sur le camp, c'est tellement différent. Mais il a, j'ai l'impression qu'il engueule que les nanas en plus, quoi, alors que j'ai pas l'impression que les mecs fassent aillent chercher du bois, quoi.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça, quoi, qui m'a un peu surpris.
Mais c'est justement, c'est quelque chose qui revenait beaucoup sur Twitter et même sur le chat. C'est que, en fait, voilà, Laurent, il a un côté un peu boomer, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'il c'est beaucoup envers les femmes. Il a ce côté un peu où il s'écoute parler, où il donne des grandes leçons, où il est. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est très très agaçant, je pense, pour les gens, et c'est aussi ce qu'il a perdu. Et aussi, moi, il y avait quelque chose que je me disais par rapport à ça, à l'activité sur le camp, c'est que Laurent et Alix se rendaient très visibles, dans le sens, ils démontraient qu'ils faisaient des choses, et en disant les autres, ça bosse dur, il y en a qui bossent et puis il y en a d'autres qui vont le rien. Ce genre de réflexion. Et je me dis, justement, est-ce que dans ce genre de personnage, quand on a ce genre de personnage en face de soi, est-ce que ça dissuade pas aussi les autres de faire leur part? Parce que tu dis, bon, c'est bon, moi, j'ai envie de faire les trucs, mais si je le fais, je vais me faire engueuler par eux parce que c'est pas fait comme ils veulent, parce que eux, ils auraient fait mieux. Voilà, on peut comprendre aussi parfois que les filles ne veulent pas entrer dans le conflit, qu'elles réagissent moins. Parce qu'elles n'ont pas envie d'aller au clash avec Alix et Laurent, qui avaient tendance aussi à être un peu dans ce côté démonstratif.
Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai qu'on est, on essaie toujours d'en faire trop, quoi. Et limite, quand on nous dit qu'il y en a un... Enfin, moi, je vais parler de... Je parle de ma saison, hein, mais je pense que toutes les saisons se ressemblent un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'on... Tu veux toujours en faire plus que ce que tu devrais faire, entre guillemets, et quand il y a quelqu'un qui va dire, non, mais c'est bon, tu peux te reposer là, limite, tu as envie de lui dire, non, mais je me repose pas, limite, je veux pas dormir de la journée, quoi. Je veux aller chercher du crabe, du bois pour te montrer vraiment, vraiment pas au-dessus du lot, mais te montrer que tu es toujours actif. Et c'est vrai que ça peut en agacer certains, ça. Après, il faut faire la part des choses aussi, entre celui qui fait rien, qui brosse sur la plage toute la journée, et celui qui, voilà, qui fait l'effort. D'aller ramasser quelques bouts de bois, tu vois, c'est quand même aussi différent, ça. Moi, je sais que, par exemple, dans ma saison, à la réunification, c'était, par exemple, Béatrice qui s'occupait de la bouffe, et limite, on n'avait pas le droit de lui demander si on pouvait faire cuire le riz, quoi. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui, à la longue, peuvent perturber. Ouais, ça, je peux comprendre.
Arnaud, qu'on n'a pas entendu.
Oui, alors que les personnes qui sont actives sur le camp, c'est toujours une bonne chose, c'est sûr, mais il y a toujours une façon un petit peu de dire les choses, et c'est vrai que Laurent et Alix, ils prenaient pas forcément de gants. Et Laurent, en plus, voilà, alors c'est pareil, hein, comme dit Gino, et comme voilà la pensée générale, hein, c'est vraiment dans le cadre de ce qui nous est montré, du montage, etc. Hein. Mais Laurent... Voilà, il avait toujours ce côté un petit peu, voilà, c'était la domination patriarcale. Alors je grossis un petit peu la chose, mais voilà, il ciblait toujours un petit peu les femmes là-dessus, genre elles vont pas chercher de bois, elles vont pas ceci, elles vont pas cela. Et il demandait jamais forcément, ou on l'a pas vu, à des Brises, des Dorian ou d'autres personnages masculins. Et Alix, c'est un peu pareil. Je fais mon activité sur le camp, je montre que je suis active, et en plus, je fais claquer la marmite sur le bois, je fais claquer les rondins de bois quand je les pose et tout, pour bien montrer que je suis en train de faire quelque chose, que ça m'agace et qu'il y a que moi qui bosse et que les autres font pas grand chose. Donc du coup, voilà, ça a tendance un petit peu à agacer, surtout à 10 jours de la fin, et forcément ça leur met une cible sur le dos assez facilement.
Au niveau stratégique, c'est Gino que toi tout à l'heure t'avais relevé quelque chose qui était très intéressant. C'est que tu comprenais pas pourquoi les binômes ne votaient pas de concert, en fait. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, bon, dans Angélique, on sait pourquoi.
Ah ouais.
On a Lola qui sur ce vote ne suit pas Angélique et compagnie, puisqu'elle elle a voté Brice. On a donc forcément le truc avec Loïc et Alexandra, donc Loïc qui veut savoir à peu près le vote et Alexandra qui dit, mais écoute, je ne te le dirai pas. Toi, Gino, justement, je voudrais que tu développes un petit peu ça. Pourquoi ça t'a un peu surpris?
Alors, ça ne vient pas de... Pour être honnête, ça ne vient pas de moi. Ça vient du chat et j'ai relevé cette observation pour ne pas qu'elle se perde au milieu de tout le flux qu'on a pendant l'enregistrement de l'épisode. Mais voilà, c'est que je vais peut-être un peu m'approprier ça, vu qu'en effet, c'est le conseil des binômes, c'est sans doute le conseil où le risque est le plus élevé si jamais on n'a pas avec soi le totem d'immunité. Parce qu'il y a deux fronts sur lesquels on peut être attaqué, c'est-à-dire sur ses propres défauts et sur les défauts de son partenaire. Et disons que là, c'est le conseil où il faudrait prendre le plus de précautions. Et disons que prendre le plus de précautions quand on est en forte divergence avec son partenaire, comme c'est le cas entre Dorian et Angélique, bon, je peux comprendre qu'ils ne votent pas ensemble. Par contre, quand on est entre des alliés proches, comme par exemple Lola et Fabrice, c'est multiplier les risques contre soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement irrationnel. Après, de ce que j'ai pu comprendre, Lola a dit sur les réseaux sociaux qu'elle savait à peu près comment le vote allait se profiler. Donc peut-être qu'elle a, peut-être que y a, pour une raison qu'on ignore, elle a en quelque sorte voté blanc en refusant de voter contre Laurent alors qu'il sort. Mais j'ai déjà dit ce que je pense des votes blancs à Koh-Lanta. J'ai jamais pensé que c'était une bonne idée. Donc voilà, c'est que je pense vraiment que il y a peut-être eu un manque de symbiose sur ces votes-là. Et que je pense que stratégiquement, ce n'est pas un très bon choix. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui ont été, eux, sur l'île, mais j'aimerais beaucoup avoir leur avis là-dessus.
Mais juste un petit détail, Denis, il leur a dit en direct au conseil, vous vous êtes pas concertés, il leur fait remarquer ça d'ailleurs. Il me semble que Denis leur dit d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a assez surprise, mais à la fois, je sais pas, à la fois il y a ceux qui veulent voter avec leur acquis de conscience à dire ben non, moi je vote pour qui je veux. Mais bon, effectivement, quoi, on part à deux, donc je sais pas, c'est vrai que. Enfin, moi, ma seule épreuve en binôme que j'avais fait, c'était sur une épreuve où on n'était pas éliminés. Enfin, je me comprends, on ne portait pas directement ensemble au conseil. Je ne sais pas, je suppose que ça serait mieux quand même de voir avec son binôme. Mais si on est mal tombé, si on avait quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, bon, je comprends qu'on n'a pas envie de. Si celui avec qui on ne s'entend pas, il veut voter contre une copine à nous, eh ben, on n'a pas envie de faire pareil. Donc, ouais, c'est délicat, quoi. J'avoue, je ne sais pas trop là. Je sais pas. Brice, toi, tu l'avais vécu de voter à deux.
Ouais.
Et tu avais voté avec.
Ouais, ouais. Avec Sophie, on avait voté la même personne et globalement, c'était ce qui s'était passé dans tous les binômes. Hein.
Ouais.
Bah, tout le monde avait voté contre moi. Hein. Enfin, sauf Maxime, je crois, et Steve aussi, qui avait deux votes. Ouais, c'est étrange. Voter que les deux aventuriers votent contre la même personne, ça, bon. Peut-être pas forcément, mais au moins qu'ils se concertent avant, quoi. Parce que
voilà.
Si qu'ils se concertent avant et qu'ils se disent, voilà, si moi, si par exemple Fabrice avait dit, moi je vote pour cette personne et Lola pour une autre, et qu'il se rend compte que ben, finalement c'est peut-être plus intéressant d'orienter les deux votes sur une même personne parce que ça peut les rassurer. Enfin, moi je trouve ça très étrange qu'ils n'en aient pas parlé avant, quoi. Parce
et
que
ouais.
Déjà, ça te rassure. Et puis, si y a deux votes. Si les deux votes sont différents et qu'à ce moment-là, tu peux te sentir en danger, mais dans ce cas-là, même s'il faut voter contre ta copine pour te sauver, tu n'as pas le choix de changer ton vote.
Ouais.
Donc, je trouve ça quand même super. À moi, ce que Lola soit... Oui, comme je ne sais plus qui c'est qui parlait juste avant, que Lola ait été complètement confiante avant d'aller au conseil, et que c'est pour ça qu'elle n'en a pas parlé à Fabrice. Mais bon, c'est Koh-Lanta, il peut toujours arriver quelque chose
avant
le conseil.
Et, ouais, c'est sûr.
Je trouve ça très, très, très osé, quoi.
Ouais. Et c'était pas la seule. Apparemment, il...
Ouais.
Et d'autres aussi ne se sont pas concertés. C'était curieux. Enfin, je sais pas. C'était bizarre, ouais, cette fois, j'avoue.
Et c'est vrai que vu que cette saison, il y a eu 4 équipes, puis 2, c'est vrai que donc les relations sociales, quand même, sont extrêmement mélangées. Donc, on peut comprendre peut-être que c'était un petit peu confus et que, du coup, on a peut-être des informations que l'on n'a pas, tout simplement. Parce que c'est vrai que, comme la vidéo, c'est vrai que mettre en scène le social. Sur Koh-Lanta, c'est extrêmement compliqué parce que c'est pas du tout télégénique en fait.
Là, excusez-moi, là, les personnes qui gèrent le site, là, je suis en train de lire une question posée par. Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais enfin, je lis une question qui est sympa, je trouve. Est-ce qu'on... Enfin, on peut voter contre son binôme pour s'auto-éliminer. Je ne sais pas. Ouais, je dis, mais ça alors ? Non, mais de toute façon, on n'a pas envie de sortir, donc on ne va pas voter contre le copain. Mais peut-être que stratégiquement, pour éviter qu'un autre binôme sorte, enfin, juste pour dire, allez, au moins, il n'y aura pas une voix contre un tel, allez. Mais non, je ne crois pas, non, qu'on vote pour soi. Bref.
Non, mais c'est vrai que ça fait partie des questions qu'on peut légitimement se poser. Bon, bah, je pense pas que les gens feraient ça, mais du coup, je me demande si c'est. J'imagine que ALP a dû prévoir ça, ce cas de figure, et dire que c'est pas possible. Mais donc là, j'ai les votes un petit peu sous les yeux. Donc en gros, il y a eu donc Alexandra avait un double vote. Donc Alexandra, Angélique, Ava, Brice et Fabrice ont voté Laurent. Dorian, Alix et Laurent ont voté Fabrice et Loïc et Lola ont voté Brice. Alors donc déjà, ça veut dire deux choses. Donc déjà, premièrement, Le truc de diviser les votes, ça n'avait aucun intérêt. On est d'accord, Gino ?
Alors oui, on est d'accord. Hein. C'est je comprends pas. Alors soit il y a des gens qui ont complètement trompé Alix et Laurent, qui leur ont fait croire qu'ils étaient pas visés et donc du coup qu'ils pouvaient se permettre de split. Soit ils ont extrêmement mal joué et j'espère pour eux. Qu'ils ont été trompés, pas qu'ils ont joué aussi mal que ça. C'est parce que tenter un split alors qu'on n'a pas la majorité, c'est complètement débile. Donc,
alors, excusez-moi, mais split, ça veut dire quoi ?
C'est diviser les votes pour se prémunir d'un collier d'immunité.
Là, c'est vrai qu'on est parfois, on a le vocabulaire, on a quelques anglicismes comme ça, donc tu fais bien de poser la question.
Oui, c'est vrai, il n'y a pas de question idiote. C'est vrai qu'on a beaucoup de. On a sûrement beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas l'habitude de ces termes-là, donc c'est bien d'avoir quelqu'un pour nous demander de les rappeler. Donc rassure-toi, Julie, c'est très bien que tu l'aies demandé.
Merci, vous êtes diplomate pour ne pas dire « Ouais, Julie, tu pourrais te mettre à jour des du vocabulaire, oh. Quand même. »
Ah non, même pas de la diplomatie. Moi, non, là, c'est même pas de la diplomatie, t'as 100% raison. C'est qu'on a pris l'habitude de dire ça et qu'on oublie un petit peu qu'il y a des nouveaux auditeurs qui pensent pas forcément. Quoi.
Ok. Alors, donc vous disiez les votes.
En gros, stratégiquement, la division des votes, en gros, ça n'avait servi strictement à rien, quoi.
C'est vrai que le vote d'Alexandra a été un vote pivot. Et donc, du coup, elle a eu la majorité s'est faite sur le vote d'Alexandra, où il y a eu 6 bulletins sur 11 qui ont été pour Laurent. Donc, le split n'aurait servi à rien. C'est dans le cas où Alexandra avait voté Brice ou Fabrice, là par contre ça aurait été un split assez inutile parce que il y aurait soit une égalité ou soit Laurent aurait été éliminé à cause de ce split. Donc ça a pas apporté, enfin il n'y a pas eu énormément d'incidence là-dessus, mais c'est vrai que c'était un split assez dangereux à faire.
Brice,
le plus étrange je trouve dans le fait de pas voter le même aventurier peut-être que son coéquipier ou sa coéquipière, c'est que si imaginons que tu te retrouves en binôme avec quelqu'un avec qui t'as pas forcément d'atome crochu, le fait de voter dans son sens, ça peut-être te permettre de te rapprocher aussi de cet aventurier ou de cette aventurière pour le suite de l'aventure, tu vois. Ça peut lui montrer aussi que tu lui donnes toute ta confiance, et je trouve que ça peut être intéressant pour la suite de l'aventure. C'est pour ça que je trouve ça vraiment étrange qu'ils aient quasiment tous splitté leur vote, quoi.
Puis surtout, c'est qu'on se rend compte que là, 3 plus 2, voilà, ça fait 5, et que même s'ils avaient voté 2...
Oui, que dans tous les cas, il n'y aurait pas eu de... Oui. Ça n'aurait pas changé la donne, quoi.
Oui, parce que je pense qu'ils n'avaient pas prévu le vote d'Alexandra. Alors, Alexandra qui était... Alors, désolé, ça va être un autre anglicisme, mais qu'on va expliquer... qu'on appelle le swing vote, c'est-à-dire le vote pivot. C'est-à-dire que quand vous êtes au milieu de deux alliances, et c'est votre vote qui détermine de quel côté ira le vote. Et c'est ce qui est arrivé à Alexandra. Donc, elle avait le choix entre Laurent et puis potentiellement Brice ou Fabrice. Et au final, elle choisit avec ses deux votes de faire pencher la balance du côté de Laurent parce que, en gros, elle lui reproche son attitude, notamment que lorsqu'elle était chez les Verts. Et Laurent a dit en interview justement que lui, s'il avait éliminé Joaquina, Adja et pas Becca parce qu'il a été éliminé lors d'une épreuve éliminatoire.
Ah oui, c'était pour protéger Alexandra.
Voilà, c'était pour protéger Alexandra et surtout parce qu'il n'avait absolument, il n'avait pas du tout aimé l'attitude d'Adja et Joaquina envers Alexandra. et que en fait il disait que peut-être qu'il avait pas dit justement à Alexandra à quel point qu'il était fier un peu de son aventure et de son parcours, et que en fait Alexandra s'était imaginé que Laurent voulait l'éliminer elle, et donc il y avait un peu de ressentiment vis-à-vis de ça. Je pense aussi que la vie de camp a pas mal joué. Et bon, surtout sur un des défauts de Laurent aussi, comme il le dit, c'est qu'il exprime quand même peu ses émotions, et que c'est que comme beaucoup de gens, je pense qu'ils peuvent être, comme Brice, t'es plus jeune que moi, un peu notre génération, c'est un peu nos parents, tu vois. C'est-à-dire, en gros, il y a beaucoup comme ça d'hommes qui, on sait qu'ils aiment leur entourage, mais ils vont pas forcément le dire par pudeur ou par par le fait que bon, ça ne se fasse pas, ça ne se dit pas, parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé justement chez Laurent. Et ça, sur le cas Alexandra, c'est ce manque de social qui l'a mis dedans, et ça a fait pencher la balance de son côté.
Alors, du fait que je souhaitais le départ de Laurent et Alix, oui, c'est un bon choix. Après, dans l'analyse de la situation, bon, après, Alexandra, je la pense pas relativement en danger, donc qu'elle élimine Laurent ou qu'elle élimine Brice ou Fabrice, je pense pas que ça remette en cause son aventure et sa place dans le jeu. Donc voilà, là où je l'ai trouvé plutôt maligne, et ça c'est mon point de vue, je sais pas si c'était le cas ou pas, c'est qu'elle ne le dise pas à Loïc, à son binôme, car il y a une proximité qui se fait entre Loïc et Laurent, et peut-être que si elle le dit à Loïc, il y aurait pu avoir une répercussion sur Laurent, et ça aurait pu peut-être la mettre en difficulté. Mais sinon, voilà, je trouve que son vote, je pense pas que ça remette en cause sa place dans le jeu, que ça lui mette une cible particulière ou quoi.
Juste, je ne comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est que vu que, enfin, si chacun vote en son âme et conscience et ne consulte pas son voisin, comment on peut dire que Alexandra peut pencher le vote? Bon, elle a une voix supplémentaire, ok. Mais pourquoi ça serait sa faute à elle? Et je veux dire, elle n'est pas la seule à voter contre tel ou tel. Tu vois, pourquoi on dit que c'est sa voix à elle? Enfin, je ne comprends pas. Enfin, si elle avait été la seule à voter ses deux voix contre une personne et que tout le monde avait voté autre chose, ça n'aurait rien changé du tout. Enfin, ça, je ne comprends pas quand une personne a deux votes, pourquoi on dit que c'est sa faute, mais je ne suis pas la seule à voter contre telle personne. Vous étiez, enfin, tu vois, est-ce que ma question est claire? Enfin, je ne comprends pas comment on dit c'est la faute d'Alexandra. En fait, je ne comprends pas. Tu vois, votre nouveau terme anglais, là. Voilà, ça veut dire on a deux voix, et donc du coup, ouais, c'est ça qui fait pencher la balance. Mais je ne crois pas, si elle avait été toute seule à voter deux voix contre une personne et que tout le monde vote d'autres personnes, ça changerait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas en quoi ça change, en fait.
Parce que justement, il y avait les alliances un peu préétablies. On se doutait un peu que la plupart des femmes, plus Fabrice, allaient voter pour Laurent, et que les autres allaient voter, bon, s'ils n'avaient pas divisé les votes, ils auraient voté pour un autre candidat, et que du coup, elle se retrouvait entre les deux avec un choix à faire, en fait. Du coup, c'est que comme les alliances étaient déjà préétablies, c'est son vote qui fait pencher la balance.
Peut-être. Mais j'avoue, moi, ça m'a choqué quand j'ai regardé l'émission. Je dis, mais pourquoi? J'ai pas compris pourquoi Laurent disait c'est la faute d'Alexandra. Mais genre, gars, c'est pas la seule à avoir voté contre toi, quoi. Enfin, j'ai juste pas. Voilà, c'est cette histoire de double voix. Là, je voyais pas trop en quoi c'était sa faute à elle. C'est autant la faute aussi des autres à ce moment-là. Enfin, bon, voilà. Enfin, après, mais ça, je parle ça en général dans tous les Koh-Lanta, quoi. C'est ça. C'est l'histoire de la double voix. Je vois pas en quoi ça peut faire pencher. Enfin, je voilà. Pourquoi on met la faute sur une personne, en fait? Enfin, voilà, c'était tout. C'était ma petite aparté. Ouais. Et donc, du coup, je t'ai coupé.
Il y a pas de souci. Non, mais c'est que justement, j'allais donner la parole à Gino, justement, sur le choix d'Alexandra.
Alors, mais d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Julie, vu que c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi on a mis Alexandra dans cette posture de vote décisif. C'est-à-dire que c'est le montage qui nous dit ça. Si ça se trouve, les autres le savaient très bien qu'Alexandra allait voter ainsi. On ne peut pas le savoir. C'est vraiment une question de montage. Peut-être que c'est un moyen qui a été fait pour nous vendre du suspense alors qu'il n'y en avait pas. Ça, on ne peut pas le savoir.
Eh ouais, c'est vrai qu'on ne sait rien. En fait, on ne sait pas parce qu'on n'y est pas. Il n'y a que quand on y est, pour avoir vécu l'aventure, il n'y a que quand on est dans le truc qu'on sait vraiment la pression qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. C'est un truc de folie. Moi, je les conseille. Ça, c'est aussi un truc que je détestais, quoi. Les conseils, mon Dieu, qui votait quoi, comment, la pression. C'est un truc de dingue. C'est vrai qu'on ne voit pas tout dans les montages.
Moi, à partir du moment où je pense que. Je ne pense pas qu'elle se soit posé trop de questions, à partir du moment où elle savait qu'elle ne risquait rien pour, parce qu'elle avait l'immunité avec Loïc. Donc, honnêtement, je pense qu'elle a vraiment voté en son âme et conscience. Et que, je ne sais pas si elle a vraiment réfléchi aux possibles répercussions, s'il y en a. Parce que je ne sais pas si on aura vraiment par la suite. Mais non, je pense que le fait d'être immunisé, déjà, ça t'enlève un sacré poids. Et je pense que quand tu arrives au conseil, déjà, tu es beaucoup plus relax. Et puis, tu votes un peu ce qui, toi, te plaît, sans vraiment peut-être penser au côté stratégique, quoi. Moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça, quoi, pour tout te dire. Voilà.
Donc, la semaine prochaine, épreuve éliminatoire encore. Du coup, je pense qu'on va pas faire de Kikadi parce que Freeze n'est pas là, et c'est vrai que l'épisode a été très très riche en discussion et qu'il va bien falloir qu'on libère nos invités. du coup, on va s'arrêter là. Déjà, je voudrais remercier nos deux invités, Brice et Julie, pour leur gentillesse, pour avoir répondu à nos questions, et merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
Merci à vous pour l'invitation. Très sympa.
Avec plaisir. C'est sympa, oui, c'est vrai.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup, Julie, encore. Hein. Et Julie, toi, est-ce que tu as participé à une émission de télé d'M6 dernièrement, si je me rappelle bien? Est-ce que tu as d'autres émissions de télé, peut-être de prévues, ou des choses que tu rêverais de faire dans le futur?
Oui, alors, en anecdote, j'ai participé à... Alors, j'ai tourné 3 émissions entre les Koh-Lanta, il n'y en a que 2 qui sont apparues, donc c'est-à-dire celle avec Norbert Comme d'Office et celle avec Incroyable Transformation sur M6. Voilà, il y en a une troisième que j'ai tournée, mais je ne sais pas, ça fait maintenant un an et demi et c'est toujours pas sorti à la télé, donc c'était une nouvelle émission et je pense que j'ai l'impression que ça ne sortira plus maintenant, c'est peut-être tombé à l'eau. Mais c'était pas une télé-réalité.
C'était quoi?
C'était... Non, j'en parle pas.
On peut pas savoir.
Ça va sortir. Non, mais c'est une petite émission flash, tu vois. C'est un truc de. Ouais. Comme quand tu fais Norbert, c'est un jour. Comme quand tu fais Incroyable Transformation, c'est un jour. Voilà, c'est pareil, c'est un truc d'un jour. Donc, mais bon, peut-être que ça sortira jamais. Bon, c'était... On verra bien. Hein. J'en parle pas, parce que si jamais ça sort, on verra. Mais bon, c'était pas une télé-réalité. Voilà.
Et ça. Et ça, t'en as parlé à. T'en as parlé à Stéphanie, ça, ou pas avant? Parce que moi, j'ai été contacté par d'autres émissions et j'ai dû passer par Stéphanie.
Non,
que j'ai dû refuser.
En fait, quand. Pour ceux qui ne savent pas qui est Stéphanie, enfin bref, c'est les gens de la production. En fait.
Clément,
ouais. Stéphanie Clément.
Ce que je sais, c'est que. Quand on fait des. Enfin, ce qu'on sait tous, d'ailleurs, parce que c'est des informations vraies, réelles qui sortent aux yeux de tous, c'est que quand on fait une émission de télé-réalité, là c'est fichu, on ne peut plus faire Koh-Lanta. D'ailleurs, ça a été très clarifié par Denis ou plein d'autres personnes. On n'a pas le droit de faire d'autres télé-réalités ou grandes émissions d'aventure, sinon on ne peut plus faire Koh-Lanta. Maintenant, des petits trucs flash comme ça, par-ci par-là, qui n'ont rien à voir avec Koh-Lanta, bon, ça passe, quoi. Mais ça dépend vraiment de ce que c'est. Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais autrement, j'ai depuis mon dernier Koh-Lanta, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais bien, comme j'ai toujours dit, j'aimerais énormément faire Danse avec les stars, mais je crois que je suis pas assez star encore.
Masque.
Oh, Masque Singer à la limite. Ouais. Tu sais, Julie, Danse avec les stars, il y en a des fois. Voilà. Donc si. En tout cas, tu aurais le soutien de la communauté Koh-Lanta.
Carrément.
Et puis, normalement, j'avais vu des échos comme quoi Claude et Jessica. Jessica, que j'avais pas trouvé sympa, mais pas si marquante que ça, qui participe à la prochaine saison. Donc, toi, Julie, qui a été un personnage quand même.
C'est pas moi qui décide. Hein, c'est les productions qui décident de qui appelle qui. Voilà. Donc, en tout cas, ça reste un de mes rêves. Voilà. On verra, hein, puisqu'il faut toujours se battre pour réaliser ses rêves, c'est ma vie.
Oui,
et puis moi, je sais pas, écoute, je serais ravie de faire encore d'autres émissions télévisées, donc je laisse, voilà, Je me laisse disponible, on ne sait jamais, pour toute proposition. Ah oui, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé quand même. Alors, je vous le dis, mais j'ai refusé. C'était de faire marier au premier regard, parce que comme tout le monde sait que je suis célibataire à présent.
Okay,
voilà, ouais. Mais j'ai dit non parce que
je pense que je me serais inscrit.
Je ne peux pas me marier avec un inconnu. Donc voilà, mais c'est assez rigolo comme anecdote. Voilà. Et je ne vois pas.
Je pense que si tu t'étais.
Tant pis, je parle trop, ça y est, j'ai tout fait sauter.
Non.
Non. Non, je pense que si tu t'étais inscrite, Julie, je me serais inscrit.
Non, c'est
temps.
Mignon.
Mais c'est qui? Alors, il faut me faire une proposition en MP. Je plaisante.
Et si on proposait Koh-Lanta, Julie, est-ce que tu repartirais?
Ah, pour un troisième? Oh, ben écoute, j'aurais tendance à dire je me vois pas assez sportive, mais pourquoi pas? Franchement, surtout que là, en ce moment, ils sont à Tahiti, apparemment, je crois. Ah, moi, si on m'appelle, oui, je retourne. Ah oui. Même si je suis éliminée de le premier conseil, c'est pas grave, j'y vais.
Ouais.
Ah, ben oui. Et même si c'est stressant à chaque fois avant une épreuve, et même si les conseils, c'est stressant, et même si les stratégies, c'est stressant, ah, mais j'y vais avec plaisir. Mais oui. On va se battre. Et j'aimerais beaucoup le faire avec toi. Ça serait très intéressant. Non, je suis sûre qu'on rigolerait beaucoup.
Ah, ben oui, on rigolerait bien, ouais. Mais là, ils sont. Non, mais si. Non. On s'était vu à la soirée, à la finale, on avait papoté, bien rigolé. Bon, faut dire qu'on était un peu. Voilà, on avait tous bien profité de la soirée. Hein.
Oui, bien sûr, ça
mais,
se fait.
Mais oui, là, ça se fait. Et là, ils sont à Tahiti, là, justement. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense qu'il y aura une apparition de Théoura dans le jeu. Peut-être qu'il viendra pour un confort, ou. Je sais pas, parce que je sais que Théoura y est actuellement. Donc, à mon avis, il va faire une petite apparition dans le jeu, moi, je pense.
On ne sait pas.
Dans la saison.
Bah, dans la saison 39 de Survivor, en gros, il y avait un truc qu'ils appelaient l'île des idoles. Et en gros, c'est qu'à chaque fois, tu avais un candidat qui partait entre le confort et l'immunité sur une île où il y avait deux légendes du jeu,
ouais,
qui lui apprenaient, en gros, des techniques ou de stratégie ou parfois un peu de survie. Et en gros, il y avait des duels avec eux, et s'ils remportaient les duels, bah, du coup, ils avaient un petit avantage ou des choses comme ça. Donc, c'est possible qu'on voit une mécanique comme ça, justement, avec genre Théoura, justement, où il faudrait défier Théoura sur tel ou tel truc, et si jamais tu gagnes, t'as un petit avantage. Et du coup, bah, encore, pour la septième fois, merci à vous deux. Attends, et merci à Gino et à Arnaud, justement,
ouais, pour
avoir participé.
Puis bah merci à tous aussi. Et puis Brice, tu disais,
ouais, oui,
que t'étais pas un grand fan,
évidemment.
Mais justement, c'est ça qui rend ton point de vue assez intéressant, c'est que là, quand on est avec les intervenants, on a quand même des points de vue assez similaires. Donc avoir des anciens qui ont des points de vue un peu plus détachés,
merci,
c'est quelque chose qui est très enrichissant pour nous. Donc c'est pour ça que c'était très bien de t'avoir. Et puis donc je te remercie de ta venue. Et puis je remercie évidemment Julie, la reine.
Merci encore de l'accueil. Puis merci à Brice et à Julie. Hein, vraiment très 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 content de leur venue et d'avoir pu parler un petit peu de leur expérience et puis de leur vision de Koh-Lanta. C'est toujours très très intéressant.
Ah, libéré, délivré. Merci les copains. À bientôt en tout cas.
De neige.
Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour le débrief de l'épisode 12 de Koh-Lanta le 4 Terre. C'est bientôt fini. Et du coup, je vous souhaite à tous un bon dimanche ou un bon mercredi pour ceux qui écouteront ce podcast lorsqu'il sortira.
Bon dimanche à
C'était
tous.
Damien, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, salut.
Bonne fin de week-end à tous.